La clé ce matin, et je suis venu avec Grace et mes parents. Ils ont été bien accueillis tout à l'heure et merci pour ça. Alors ce matin, on a chanté plusieurs choses. Les chants et les prières allaient bien dans le sens du message de ce matin. Ok, je l'ai intitulé une rencontre qui change tout. Ok, une rencontre qui change tout. Vous me demanderez peut-être à quoi ça fait allusion. Le texte, c'est Marc chapitre 2, versets 1 à 12. On va le lire tout à l'heure. Mais pour l'instant, je vous invite un peu à penser. On est en été, et donc c'est généralement le temps des rencontres. On voyage, on rencontre d'autres personnes. On vient ici et on rencontre des gens. On va là-bas et on rencontre des gens. Et très souvent, et même on peut regarder, rentrer très loin dans l'histoire de sa vie et essayer de voir... Quelles sont les rencontres? Qu'est-ce que certaines rencontres ont changé dans notre vie? Ok. Et il y en a des rencontres qui changent littéralement la vie. D'accord. Moi, je suis allé un 31 décembre prêcher quelque part. J'ai rencontré Grace et elle a changé ma vie. Ok. Et donc, je pense que vous pouvez penser aussi à des choses comme ça. Je parlais avec mon père l'autre jour et il disait que il remontait à 1974 à une rencontre avec son oncle dans une situation précise que je ne vais pas détailler parce qu'on n'a pas le temps. Il était capable de relater cette rencontre-là dans les moindres détails, c'est-à-dire on est 40 ans, 50 ans en arrière. Et il est capable d'en reparler dans les moindres détails parce que ça l'a marqué. Ok. Vous aussi, certainement, vous avez des rencontres comme ça qui vous ont marqué. Aujourd'hui, l'histoire qu'on va regarder, c'est l'histoire d'une rencontre, mais plus qu'une rencontre qui change les choses comme ça a changé pour moi lorsque j'ai rencontré Grace, plus qu'une rencontre qui change les choses comme celle que mon père a eue avec son oncle. Là, aujourd'hui, on va revenir sur l'histoire d'une rencontre. Une rencontre qui change tout. OK. Le genre de rencontre, la rencontre que tout le monde doit faire. OK. La rencontre avec Jésus. Et on va voir ce que ça change. D'accord. Parce qu'on va en arriver, on va arriver au cœur même de la foi chrétienne. Parce que si on demande ce que la foi chrétienne apporte à notre monde aujourd'hui, qu'est-ce qu'on répondrait? Certaines personnes répondraient, la foi chrétienne apporte des valeurs positives. C'est vrai, mais pas que ça. Mes amis, s'il y a une chose en absolu que la foi chrétienne apporte au monde et que rien d'autre, aucune autre foi, aucune autre philosophie, aucune autre doctrine n'apporte au monde, c'est le pardon des péchés. Ok, c'est le pardon des péchés et c'est la chose absolue que tout le monde a besoin d'avoir, le pardon des péchés. C'est de ça qu'il va être question ici ce matin. Marc chapitre 2, des versets 1 à 12. Lorsqu'on va ouvrir, gardez bien vos Bibles ouvertes et, okay, et on va regarder verset après verset tout à l'heure quand je vais commencer à expliquer. Pour l'instant, je lis. Marc chapitre 2, des versets 1 à 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Ok. Là, on est au cœur même de ce texte. Là, ici, on est au cœur de la foi chrétienne. On est au cœur de ce qui doit concerner tout homme. Tout le monde, je veux dire, tout le monde ici et dans le monde entier doit s'assurer d'avoir entendu cette parole-ci. Sinon, il faut l'entendre aujourd'hui. Ok. Il dit, je suis au verset 5. « Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Verset 6. « Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ? Lequel est le plus aisé ? De dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés ?» ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche ?» Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » À l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Ces gens-ci ont vu le paralytique sortir, guéri et pardonné de ses péchés. Et ils ont dit quoi? Ils ont glorifié Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Ce matin, le challenge que je me suis donné en préparant ça, c'est de me dire, « Ok, j'aimerais que, en sortant, que tout le monde glorifie Dieu, parte pour glorifier Dieu en disant, « Je n'ai jamais rien vu de pareil. » En pensant même à sa propre vie, en pensant au pardon de ses péchés, s'il est déjà pardonné, mais qu'il reparte en glorifiant Dieu et en disant, « Je n'ai jamais rien vu de pareil. » Ok, on va regarder maintenant le texte et on va le regarder autour de 5 points forts qu'il y a dans cette rencontre. Le premier point, c'est que on va voir Jésus qui parle avec la foule. Ok. Et là, on va voir que c'est dans le verset 1 et 2. On va voir qu'il est question de curiosité. Ça sera une curiosité. D'accord? La deuxième chose, c'est Jésus et les 5 hommes. Versets 3 et 5. Et là, c'est la foi qui ose. Troisième point, c'est Jésus et le paralytique au verset 5. Et là, ça sera le pardon des péchés. Quatrième point, Jésus et les scribes, versets 6 et 11 à 11. L'identité de Jésus. Et le dernier point, Jésus et la foule au verset 12. Ça sera la louange. Ok, tu peux continuer. Donc, ok, encore, s'il te plaît. Très bien. Là maintenant, premier point, Jésus et la foule. Regardez les versets 1 et 2, ok. Jésus et la foule, on va voir qu'il est question de curiosité. La scène qui est racontée dans ce texte se passe à Capernaum. Lorsque vous regardez le verset 1, il dit, quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était dans la maison. Lorsqu'on lit la Bible, il y a des marqueurs sur lesquels faut pas passer. Faut pas passer trop vite. Quand on lit quelques jours après, faut s'arrêter et se demander quelques jours après quoi. OK? Quelques jours après, ça s'appelle des marqueurs spatio-temporels pour ceux qui font un peu de théologie. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. OK? C'est-à-dire que Jésus est déjà venu dans cette ville-ci. Il est venu une première fois et c'est assez impressionnant parce que lorsqu'il arrive, on dit que la maison était pleine, pleine à craquer, de telle sorte qu'il n'y avait plus de place même devant la porte. Mais alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est comment cela se fait-il? Est-ce que Jésus, vous savez, lorsqu'il y a une star, un grand chanteur ou un président qui vient en France ou à Clé, il y aura des affiches publicitaires. OK, on va faire de la publicité à la télé, à la radio, partout. Mais est-ce que Jésus a bénéficié de la publicité comme ça à cette époque-là? Absolument pas. Absolument pas. Pourquoi il n'a pas bénéficié de publicité? Parce que les chefs religieux ne l'aimaient pas. Regardez au chapitre 1. On va voir ce qui s'est passé lorsque Jésus est arrivé à Capernaum pour la première fois. Vous verrez que ça explique en fait pourquoi il y a tant de personnes dans la maison où il est. Regardez chapitre 1, versets 21 et 22. Versets 21 et 22, il est dit, « Ils se rendirent à Capernaum. » On parle de Jésus et ses disciples. « Et le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et il l'enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il l'enseignait comme ayant autorité et pas comme les scribes. » Première chose, quand Jésus arrive, il enseigne avec autorité. Les gens sont frappés, sont impressionnés de comment Jésus enseigne. Jésus parle du royaume de Dieu, Mais il ne parle pas comme Gaël pourrait en parler. Il ne parle pas comme le meilleur des prédicateurs du monde pourrait en parler. Il en parle comme étant le Fils de Dieu, celui qui descend du royaume de Dieu, celui qui est lui-même le royaume de Dieu ambulant. Okay? Et donc, il en parle avec une profondeur, une certitude, une pertinence. Il explique tellement bien les choses que tout le monde est frappé par sa doctrine. Et donc, ça impressionne les gens. Deuxième chose qu'il faut regarder entre les versets 23 et 26. On dit, « Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth, tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le sang de Dieu. » Verset 25, « Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. » Verset 27, tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Verset 28. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. D'accord? Jésus enseigne avec autorité, Jésus guérit et chasse les démons, et sa renommée se répand. Les gens commencent à le connaître. Entre le verset 29 et 34, je vais pas le lire, on voit que Jésus va aller dans la maison de Simon-Pierre, et la maman de Simon-Pierre est malade. Ok? Elle a une fièvre. Il va la prendre dans ses mains et il va lui dire, c'est bon, la fièvre est terminée. Là encore, les gens vont dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Jésus restaure les choses qui sont brisées, les choses qui ne vont plus bien. Il guérit les malades. Versets 40 et 41, on va voir, c'est une autre histoire encore. Jésus qui passe et qui guérit un lépreux. Là, c'est le comble. La lèpre, mes amis, ne se guérissait pas. Le seul cas de lèpre qui a été guéri, c'était qui? Naaman, dans 1 Roi chapitre 6, il me semble, dans l'Ancien Testament. Le seul cas de lèpre qui a été guéri, c'était le général Naaman, par la puissance de Dieu. Okay? Et là, Jésus guérit la lèpre. Ça parle aux gens. Les gens se disent, oh, personne n'a jamais guéri la lèpre en dehors de Dieu. Et là, voilà un homme qui guérit la lèpre. Qui est-il? Ok? Qui est-il? Et lorsque Jésus va guérir ce gars, il va lui dire, ok, vas-y, mais ne parle de ça à personne. Ne parle de moi à personne. Mais c'est mal connaître ce gars. Au verset 45, le gars va partir et il va parler de Jésus partout. Et on dit de telle sorte que Jésus ne pouvait plus entrer dans un lieu discrètement. Tout le monde sortait pour le voir. Pour savoir qui est cet homme-là qui guérit les lépreux, qui est cet homme-là qui prêche avec autorité, qui est cet homme-là qui a autorité sur les esprits impurs, qui est cet homme-là dont la renommée se répand de plus en plus. Et donc là, Jésus revient à Capernaum, et qu'est-ce que les gens font? Non seulement ils viennent pour l'écouter, pour le voir, mais mieux encore, ils font quoi? Ils viennent avec d'autres personnes. Ils invitent d'autres personnes. Ils viennent avec des gens et ils leur disent, venez voir qui est Jésus. La foule qui est dans la maison et qui est là, elle est au courant de tout ce que Jésus a déjà fait. Ils sont au courant que Jésus a déjà guéri le lépreux, que Jésus enseigne avec pertinence la foi chrétienne, que lorsqu'il en parle, il n'en parle pas comme les prédicateurs de ce monde pourraient le faire. La foule qui est là, c'est pas une foule qui est nécessairement convaincu du message de Jésus. OK? C'est pas une foule qui est convaincue de son péché et qui cherche un sauveur pour être pardonné. C'est une foule qui est curieuse. C'est une foule qui est curieuse d'entendre la prédication de Jésus. On a dit qu'il prêche bien. Je viens, je veux savoir. OK, vas-y, prêche donc que j'entende et que je vois si tu prêches bien. On a dit qu'il fait des miracles. Et donc, la foule vient en se disant, « Ok, certainement, on va assister à un miracle. » Et donc, ils veulent voir un miracle. Et peut-être une bonne question pour nous maintenant, ce matin, c'est de demander, « Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici, ce matin ?» Je veux dire, en vous levant le matin et en venant ici à l'église, ici au culte, qu'est-ce que vous êtes venu faire ? Curieux, Parce qu'on a dit que Gaël Wagoum viendrait peut-être et on se dit, ah bah tiens, on va venir l'écouter. Qui est-il? Qu'est-ce qu'il raconte? Ou alors curieux, parce qu'on sait qu'il y a telle personne qui viendrait ou telle personne qui ne serait pas là. Ou alors peut-être que vous veniez pour rencontrer des gens de l'église. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ce matin? En tout cas, cette foule qui est là, c'est une foule qui est curieuse. C'est une foule qui veut savoir qui est Jésus. On dit que Jésus était là et il faisait quoi? Il enseignait la parole. C'est ce qu'on voit au verset 2, à la fin du verset 2. Il leur annonçait la parole. Mais quelle est donc cette parole? La parole que Jésus annonçait, c'est ce qui se trouve au chapitre 1, versets 14 et 15. Les temps sont accomplis. Le royaume de Dieu est venu vers vous. Repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Ok? C'est ça la parole de Dieu. C'est ça l'évangile de Jésus. Repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Le deuxième point, c'est la foi qui ose. C'est ce qu'on voit dans les versets 3 et 5. Pendant que Jésus est en train d'enseigner, il y a quelque chose d'incroyable qui va se passer. Quatre personnes sont allées chercher leur ami, un paralytique. Ils le mettent sur un lit et ils viennent. Ils essayent de l'amener à Jésus. Mais il y a un problème. On a vu tout à l'heure que la porte est comment? La maison est comment? Pleine. Les gens ne peuvent plus entrer. Et la foule qui est là, j'ai dit tout à l'heure que c'est une foule qui est curieuse, c'est une foule qui n'est pas repentante, c'est pas une foule qui a compris la bonne nouvelle de Jésus et qui vient pour se repentir et qui vient pour le suivre. Et là, on a un indice d'ailleurs parce que je crois que si on voit quelqu'un qui arrive et qui a du mal à entrer, qu'est-ce qu'on fait si on a compris l'évangile de Jésus et la grâce de Dieu? Qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'aider cette personne et de l'installer, on est d'accord? Mais cette foule bloque, cette foule ferme. Il ne le laisse pas passer. Il ne laisse pas passer le paralytique. Ça parle encore plus, ça explique davantage quel est l'état d'esprit, l'attitude de la foule. C'est une foule curieuse. Ils arrivent, mais les quatre ne se découragent pas. Ils vont finalement passer par le toit et ils vont commencer à défaire le toit, détacher le toit. Essayez d'imaginer un peu. Est-ce que pour ceux qui sont à la fac ou ceux qui sont allés à la fac, essayez d'imaginer lorsque le prof est en train d'expliquer quelque chose d'important et que quelqu'un perturbe. Quelle est l'attitude du prof? Et il n'est pas très content. Quelle est l'attitude même des autres étudiants? Chut! OK? Il dit, allez, taisez-vous, taisez-vous. Parce que le prof est en train d'expliquer quelque chose d'important. Ou alors, des fois, même à l'église, mes amis, OK? Pendant le culte. Et pendant que le pasteur est en train de prêcher et qu'il y a un bébé qui pleure, c'est quoi souvent l'attitude? Tout le monde se retourne et menace la maman du bébé du regard. Très souvent, c'est ça. Est-ce que tu pourrais pas sortir avec le bébé qu'on puisse écouter ce qui se passe? Lorsqu'il y a un téléphone qui sonne, qu'est-ce qu'on fait? C'est exactement ce qui se passe ici. Jésus enseigne la foule à propos des choses les plus importantes pour la vie d'un homme et tout d'un coup, il y a du sable qui lui tombe dessus. On ne sait pas combien de temps ça a pris pour faire le trou, pour faire passer le paralytique, mais l'enseignement de Jésus a été interrompu. Peut-être que la foule était très fâchée, mécontente de l'attitude de ces quatre personnes, mais les cinq là, ils sont déterminés. Ils croient fermement que Jésus peut faire quelque chose pour leur ami. Parce que rendez-vous compte, le gars, il est paralytique, donc il a des problèmes avec ses jambes. D'accord? Donc, d'oser le porter sur des brancards et de le faire passer par le toit, au risque de le faire tomber et de casser ce qui lui reste de jambes. Ok, il faut avoir la foi en celui vers qui on l'emmène. D'accord? En se disant, il vaut mieux pour toi de tomber et de mourir aux pieds de Jésus. Ailleurs. Eux, ils ont la foi. Une foi qui ose, une foi extraordinaire, une foi qui les met en mouvement. Je veux dire que ces quatre personnes-là ont la confiance en Jésus. On ne sait pas, peut-être que eux ont déjà bénéficié parce que dans le chapitre 1, quand Jésus est venu pour la première fois à Capernaum, peut-être que ces gens s'y avaient déjà bénéficié des miracles de Jésus. OK? Donc, ils savent que Jésus est capable de faire quelque chose. Ils transportent le paralytique et ils l'emmènent jusque-là. La foi qu'ils ont en Jésus les met en mouvement. Et vers qui est-ce que la foi que vous avez vous met en mouvement en ce moment? Je veux dire, peut-être que vous connaissez des gens qui ont besoin, peut-être des besoins les plus basiques. Si vous avez la foi en Jésus, elle doit vous mettre en mouvement vers ces personnes-là. D'accord? Pensez autour de vous. Peut-être qu'il y a des gens qui ont juste besoin d'entendre une parole de consolation. La foi en Jésus doit vous mettre en mouvement vers ces personnes. Peut-être qu'il y a des gens qui ont des besoins financiers, qui ont des besoins, qui ont besoin qu'on les écoute, qui ont besoin qu'on les assiste à faire quelque chose. La foi qu'on a en Jésus doit mettre en mouvement, comme elle a mis en mouvement ces quatre personnes. Le troisième point, c'est Jésus et le paralytique. Le pardon des péchés. C'est ce qu'on voit au verset 5. Regardons, je lis verset 5. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Ah, cette phrase a dû être un choc pour tout le monde lorsque Jésus la prononce. Souvenez-vous, il y a trois catégories de personnes dans ce texte-ci, si vous avez bien vu. Il y a premièrement la foule qui est là et qui est curieuse. Secondement, il y a ces cinq hommes-là qui sont confiants, qui ont la foi en Jésus. Et troisièmement, il y a les scribes. On va voir tout à l'heure. Et les scribes sont là, ils sont venus pour piéger Jésus. La foule est certainement encore agitée, perturbée. Ils n'arrivent pas à concevoir qu'on ait fait le trou et que le sable soit tombé sur le maître. Ils ne sont pas contents. On a perturbé l'enseignement, un grand enseignement, et là, ils ne sont pas contents. Peut-être qu'ils sont encore... Il y a encore de l'échauffement. Et là, ils se disent, « Ah, finalement, voilà un paralytique qui est arrivé. Ah, nous sommes venus... » La foule est curieuse, souvenez-vous. Okay? Ils sont venus pour voir un miracle parce qu'on leur a dit que Jésus faisait les miracles. Et là, maintenant, ils se disent, certainement, c'est le moment. Voilà un paralytique. Certainement, il va se passer quelque chose. Okay? Ils sont attentifs. Ils regardent. C'est comme lorsque vous regardez un match de foot, équipe de France, okay? Finale de la Coupe du Monde 2018. France-Croatie. Premier but. Enfin, je ne sais plus exactement à quel moment. Et puis, on est dans la surface de réparation. Et, je ne sais pas, Mbappé ou Griezmann, il a la balle, il veut tirer. Enfin, il tire. Tout le monde dit... Et finalement, la balle tape le poteau et elle ressort. C'est quoi la réaction des gens? Oh, OK. On est tous attentifs, on attend le but. Et finalement, oh, on est déçus, d'accord? C'est ce qui se passe ici certainement pour cette foule. Parce que quand ils sont là, ils attendent le miracle. Ils se disent, voilà donc un paralytique, voilà l'objet de notre miracle. Et donc Jésus, voilà, fait le miracle. Ils attendent. Et lorsque Jésus ouvre la bouche, qu'est-ce que Jésus dit? Tes péchés te sont pardonnés. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? On veut le miracle, tu parles des péchés pardonnés. Il y a aussi, pensez à ces quatre hommes-là, à ces cinq hommes. Non, d'abord les quatre, c'est-à-dire les quatre qui portent. Qu'est-ce qu'ils sont venus chercher? Ils sont venus chercher la guérison physique de leur ami. Et donc, quelle est leur réaction lorsque Jésus dit, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Ils peuvent se demander, finalement, tout ça pour ça? On l'a transporté de là où il était. On a dû braver la foule. On a défait le toit de la maison de quelqu'un. Après, on va devoir payer. On a pris le risque de porter ce gars et de l'emmener là. Tout ça, pour entendre « Tes péchés te sont pardonnés ». Remarquez que, premièrement, Jésus ne va pas faire de reproches. C'est-à-dire qu'il a été perturbé dans son enseignement. Il y a du sable qui est tombé sur lui, mais il ne va pas faire de reproches. Bien au contraire, à ces hommes, à cet homme-là, ce paralytique qui était rejeté, Jésus va lui dire quelque chose de différent. Rendez-vous compte, lorsque, à cette époque-là, la paralysie était vue comme étant un signe du jugement de Dieu. C'est-à-dire que lorsque vous étiez paralytique, on estimait que c'est Dieu qui vous juge et qui vous condamne. Et donc, si Dieu te rejette, alors nous, le peuple qui nous estimons être le peuple de Dieu, nous aussi, on te rejette. C'est pour ça qu'il ne le laisse pas passer. Et le voilà qui arrive. Un homme méprisé et rejeté, qui désormais entend cette parole de Jésus. « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il lui dit « Mon enfant ». Rendez-vous compte, c'était un exclu. C'était un rejeté, un laissé pour compte. La société l'avait ignoré. Et Jésus lui dit « Mon enfant ». C'est une parole pour nous aussi ce matin. Peu importe le rejet des gens, peu importe le regard méprisant que le monde peut avoir sur nous, la parole rassurante de Jésus qui dit « Mon enfant ». Vous savez, c'est une parole douce qui dit, qui transmet toute l'affection qu'on a pour quelqu'un. À cet homme exclu, Jésus va dire « Mon enfant ». Et ça, certainement, c'est le premier soulagement, le premier baume sur le cœur de cet homme-là. Voilà son premier réconfort, voilà sa première guérison. La personne qui était la plus rejetée est désormais la personne aimée et acceptée de la personne la plus convoitée, qui est Jésus. Deuxièmement, lorsque Jésus dit « Tes péchés te sont pardonnés », Jésus rétablit ici le sens des priorités. Cet homme croyait peut-être ne souffrir que de paralysie, mais en fait, il souffrait de quelque chose de beaucoup plus grave encore. Les péchés non pardonnés. Mes amis, généralement, on dit que c'est les péchés qui envoient en enfer, mais c'est pas tout à fait vrai. Parce que tout le monde est pécheur. OK, ce qui envoie en enfer, c'est quoi? C'est les péchés non pardonnés. Et il souffrait de ça, cet homme-là. Des péchés non pardonnés. Ses péchés n'étaient pas pardonnés. Il croyait que son besoin principal pour une vie heureuse et épanouie était la guérison de ses jambes. Mais Jésus lui montre que son besoin absolu pour une vie en paix avec Dieu dans ce monde et en paix avec Dieu dans l'éternité, son besoin absolu, c'est le pardon de ses péchés. À quoi lui servirait d'être guéri de ses jambes et de marcher avec ses jambes là pour aller en enfer? Ah. Avez-vous été pardonné de vos péchés? Avez-vous déjà demandé à Jésus de vous pardonner vos péchés? Si vous ne l'avez jamais fait, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dans Ésaïe, chapitre 55, au verset 7, il est écrit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Jésus pardonne. Vous voyez cet homme-là qui était là. Jésus ne le juge pas. Jésus l'accueille. Il appelle mon enfant et il lui dit, tes péchés sont pardonnés. Là, Jésus ne lui demande même pas pourquoi tu avais fait ça et pourquoi tu avais fait ça. Il lui pardonne ses péchés. Il soulage son cœur. Si vous croyez que vous avez avant tout besoin d'argent, Jésus dit que non, votre besoin avant toute chose, c'est que vos péchés soient pardonnés. Et si vous croyez que vous avez avant toute chose besoin d'une famille, d'une femme et des enfants, Jésus dit que votre besoin avant toute chose, c'est que vos péchés soient pardonnés. Avez-vous des péchés non pardonnés? Si oui, j'ai une bonne nouvelle pour vous. En Éphésiens chapitre 1 au verset 7, il est dit « En lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. » Jésus pardonne. Jésus prend plaisir à pardonner. J'essaie d'imaginer un peu et je me dis qu'au moment même où Jésus dit à cet homme-là, tes péchés sont pardonnés, l'homme n'a peut-être pas marché physiquement, mais il a dû sentir le fardeau de ses péchés enlevé comme ça de lui et transféré ailleurs. Il a dû peut-être rester allongé sur son lit, mais sentir le poids de son péché qui quittait. Et il y a une autre catégorie de population dans cette salle, ce sont les scribes. Dans les versets 6 à 11, c'est là qu'on parle de l'identité de Jésus. Les scribes, c'était une catégorie de religieux, souvent des pharisiens. Ils critiquaient et détestaient Jésus. La phrase que Jésus prononce au verset 5 quand il dit « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés », ne les a pas laissés indifférents. Au verset 7, on voit ce qu'ils disent au-dedans d'eux. Ils disent, remarquez au verset 7, on dit que personne ne parle. Hein. Moi, là, je suis en train de parler. Personne ne parle. On dit, pardon, ils se disaient au-dedans d'eux. Comment cet homme parle-t-il ainsi? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Ces religieux sont perturbés et ils sont fâchés. Et là encore, mes amis, Jésus ne les condamne pas non plus. Jésus, dans un sens, ils ont raison. Qui peut vraiment pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Il n'y a que Dieu qui pardonne les péchés. Personne d'autre ne peut pardonner les péchés. Mais notons aussi qu'ils ont tort dans un autre sens lorsqu'ils estiment que Jésus blasphème. Il dit, qui peut vraiment pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Avec cette question, Jésus arrive exactement à ce qu'il voulait. Tout le monde connaît Jésus qui est un excellent prédicateur. On l'a vu au chapitre 1. Tout le monde connaît Jésus qui a autorité sur les démons. On l'a vu au chapitre 1. Tout le monde connaît Jésus qui guérit les malades. On l'a vu au chapitre 1. Tout le monde connaît Jésus qui purifie les lépreux. On l'a vu encore au chapitre 1. Mais ici, Jésus veut emmener les gens à une connaissance, à une révélation de son identité beaucoup plus profonde. Jésus n'est pas juste un distributeur de guérison. Jésus n'est pas juste un distributeur, un chasseur, un exorciste. Il est plus que ça. Qui peut vraiment pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? La logique dans cette question est claire. Puisque Jésus dit pardonner les péchés, alors il est soit Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu qui pardonne les péchés, ou alors il est quoi? Blasphémateur. Ils ont dit il blasphème. D'accord? Donc, il n'y a que deux choses. Soit qu'il est Dieu et il pardonne vraiment les péchés, soit alors qu'il est un blasphémateur. Ce sont les deux options. Et en fait, c'est Jésus qui amène tout le monde à n'avoir que ces deux options-là. Jésus refuse qu'on voit en lui un grand maître de morale. Il refuse qu'on voit en lui un homme qui a marqué l'humanité. Il refuse ça. Il dit que tout le monde doit choisir. Soit qu'il est Dieu, alors on se prosterne et on l'adore. Soit alors qu'il blasphème et alors il doit être lapidé comme c'était la loi. Il amène tout le monde à se poser la question et à décider. Je dis même ce matin, il faut choisir qui est Jésus pour nous. Soit Dieu, soit blasphémateur. Verset 8. Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Mes amis, regardez ce que ces scribes ont dit. Qui est cet homme-là qui pardonne des péchés? Jésus leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Aucun d'eux n'a parlé, mais Jésus a lu dans leur cœur. Ça, c'était un premier indice de réponse à leur question. Un blasphémateur ne sait pas ce que je pense dans mon cœur. Seul Dieu sait ce que je pense dans mon cœur. Ils auraient pu, avec Juste cette question de Jésus, se dire « Ah, il arrive à savoir ce que nous tous on pense en même temps dans nos cœurs. » Alors certainement, il est plus qu'un blasphémateur. Certainement, il est Dieu. C'est ce que Jérémie dit au chapitre 17, verset 10. « Moi, l'Éternel, j'éprouve les cœurs, je sonde les reins. J'arrive à savoir ce qu'il y a au-dedans de l'être humain. » Jésus va aller plus loin au verset 9. À votre avis, qu'est-ce qui est vraiment le plus facile? Au verset 9, il va dire, mais lequel est le plus aisé? De dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou alors de lui dire, lève-toi, prends ton lit et va chez toi. Chez moi, je suis du Cameroun, et au Cameroun, on dit qu'avec la bouche, on peut construire un gratte-ciel. D'accord, ok. Donc, je peux arriver là et je te dis, hey, Julien, tes péchés sont pardonnés. Mais qu'est-ce qu'on sait si c'est vrai? Qui sait si c'est vrai? Tout le monde peut dire ça. Tout le monde peut sortir et dire, « Oh, tes péchés sont pardonnés. Oh, tes péchés sont pardonnés. » Mais ici, Jésus va faire quelque chose. À cette époque, c'est dans la pensée juive, la maladie était généralement associée au péché. D'accord? On disait que tu es malade parce que tu es pécheur. Soit toi, soit tes parents. Et donc, la preuve pour tout ce qui était là, que les péchés de cet homme avaient vraiment été pardonnés, c'était qu'il guérisse. Et là, Jésus leur demande, qu'est-ce qui est le plus difficile à faire? À parler ou alors à faire? À votre avis, qu'est-ce qui est le plus difficile? Parler? C'est ça le plus difficile? Non. C'est faire, c'est guérir cet homme-là qui est le plus difficile. Et au verset 10 et 11, il va lui dire, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Voilà ce paralytique-là qui va se lever et il va partir dans sa maison. Il va vraiment guérir de sa maladie. Et ça sera la confirmation pour tout le monde que ce que Jésus a dit tout à l'heure, ce n'était pas juste une parole. Il pardonne vraiment les péchés. Lorsqu'il dit que tes péchés sont pardonnés, alors ils sont vraiment pardonnés. Et il dit dans sa parole que quiconque, il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Celui qui demande pardon obtient le pardon. Et obtient vraiment le pardon. Si vous avez demandé pardon à Jésus pour vos péchés, croyez que vos péchés sont vraiment pardonnés, sans l'ombre d'un seul doute. Mais par contre, si vous ne l'avez pas encore fait, si vous n'avez jamais invité Jésus à vous pardonner et à être votre Seigneur et à vivre dans votre cœur, c'est aussi le moment de le faire. Et avec la ferme conviction que lorsque vous faites ça, il pardonne vraiment vos péchés. Tout, est-ce que Jésus est Dieu ou alors est-ce qu'il est blasphémateur? Tout dans le texte a montré qu'il est vraiment le Dieu, le Fils, Dieu le Fils qui est sur terre et qui a l'autorité pour pardonner les péchés. Et il y a une dernière chose. Jésus et la foule. C'est dans le dernier verset, c'est avec ça que je vais terminer. La conclusion de l'histoire, c'est la louange finalement. La conclusion de l'histoire est donnée par la foule. Je veux dire que lorsque on sait qu'il y a eu pardon de péché, on est dans la louange. Que ce soit pour soi-même, que ce soit pour quelqu'un d'autre, on est dans la louange lorsqu'il y a pardon des péchés. Parce que c'est la chose absolument formidable que la foi chrétienne amène dans le monde. Le pardon des péchés. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Voilà ce que la foule dit. Waouh! Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Mais je lève un équivoque ici. Lorsque la foule dit « Nous n'avons jamais rien vu de pareil », mes amis, la foule n'est pas en train de parler du miracle. Non, ils ont déjà vu le miracle au chapitre 1. Ils ont déjà vu Jésus qui pardonne les péchés, enfin qui fait des miracles, qui chasse les démons, qui guérit les gens, qui purifie le lépreux. Ils ont déjà vu ça. Ce qu'ils n'ont jamais rien vu de pareil ici, vous savez ce que c'est? C'est le pardon des péchés.
C'est le pardon des péchés. C'est ça qu'ils n'ont jamais rien vu de pareil. Et je peux vous rassurer que vous ne verrez jamais rien de pareil. En dehors de Jésus, vous ne verrez jamais ça nulle part. Ils ont eu la preuve que sur la seule parole de Jésus, les péchés de cet homme ont vraiment été pardonnés. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. J'espère que nous aussi sommes impressionnés parce que jamais nous n'avons vu un homme qui pardonne les péchés si ce n'est Jésus. Ok. Le Seigneur nous annonce le pardon de nos péchés. C'est une grande libération. On peut désormais regarder en face la réalité de ce que nous sommes, même si la réalité n'est pas belle à voir. C'est-à-dire regarder sa propre vie et venir demander pardon à Jésus. Je veux dire, quand on voit ça, on se dit, ok, lorsque j'aurai péché, je n'ai pas besoin de cacher. Je n'ai pas besoin de faire comme s'il n'y avait rien. Je n'ai pas besoin de m'enfoncer un peu plus. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? Juste penser à ce Jésus-là qui pardonne les péchés, sans jugement, sans condamnation, et revenir simplement vers lui et dire, Seigneur, j'ai encore péché. Et entendre sa parole qui dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Ok? Et juste, et une fois qu'on entend cette voix-là, on se redit encore en soi, je n'ai jamais rien vu de pareil. Un Dieu qui me pardonne infiniment. Je l'ai dit tout à l'heure, Ésaïe 55, un autre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Il, lorsque Jésus dit à l'homme, pardonne 7 fois, 77 fois, en fait, il est en train de dire, tu pardonnes infiniment. Tu ne comptes pas. Et si c'est lui qui dit ça, à plus forte raison. Jésus ne compte pas. Il pardonne encore et encore. On peut désormais, comme l'homme paralytique de notre texte, se lever, tourner le dos aux vieilles habitudes et repartir sur un nouveau chemin. Le chemin de la vérité, celui de la lumière. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Jésus peut le dire parce qu'il est venu dans le monde pour prendre sur lui notre péché. Okay? Lorsque Jésus dit « tes péchés sont pardonnés », en fait, il ne les prend pas pour les mettre sur quelqu'un d'autre. Vous savez où il les met ? Sur lui-même. Il enlève sur toi et il les met sur lui. Et encore, et il l'a fait pour tout le monde entier. Et où est-ce qu'il a déposé tous ces péchés-là ? À la croix. À la croix, il a souffert, il est mort. 3 jours après, ressuscité des morts. Et la résurrection de Jésus nous dit que oui, nos péchés sont vraiment pardonnés. Okay? Le fait qu'il soit élevé au ciel, assis à la droite de Dieu, nous dit que vu parce que nos péchés sont pardonnés, nous allons vivre avec Jésus dans l'éternité aussi. Mais qui vivra dans cette éternité-là? Ceux pour lesquels les péchés ont été pardonnés. Ok. Si vos péchés n'ont pas encore été pardonnés, saisissez cette occasion. Ne rentrez pas, ne partez pas d'ici en disant, je vais réfléchir, je verrai. Saisissez l'occasion maintenant. Ok. Et si vos péchés sont déjà pardonnés, comme on l'a chanté tout à l'heure, glorifions Dieu. Je prie, priez avec moi, s'il vous plaît.